J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'avoue que cette vidéo, j'avais envie de me concentrer. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, j'avais envie d'avoir un stylo, une feuille où j'ai noté des trucs. Malheureusement, apparemment, je peux pas. Voilà, c'est un truc qui me... Je crois qu'à chaque fois que je l'ai fait pour la séance, la Bible et tout. Et j'avais l'impression de toujours me répéter, toujours bégayer. Je sais pas. J'avais l'impression que... Enfin, c'était spontané sans être spontané, dans la mesure où ce que j'écrivais, c'était vrai, c'était vraiment ce qui avait été dit avec le prêtre, ce que je pensais. Mais après, enfin, ça faisait bizarre. Donc, je sais pas, c'est une méthode qui ne me parle pas trop, surtout qu'en fait, j'aime, enfin, je parle souvent de sujets que j'ai vécu, et parfois, c'est un peu sensible, donc je me vois pas noter, je me dis, ok, je vais y aller. Et si ça me fait chier, vous entendez dans ma voix, voilà, cette partie m'a fait chier, ainsi de suite. Si je note, je pense que je perds un peu ça. Dans tous les cas, je me suis un peu éparpillée. Enfin, j'ai commencé à bavarder, l'intro était trop longue. Juste pour vous dire que là, on va enfin se poser et parler du travail. Parler du travail, pas forcément de mon travail, pas de ce que je fais. Du travail, franchement, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la recherche, comment moi j'ai vécu la recherche... ce moment de chômage où tu sais pas trop, peut-être la décision entre deux trucs, la décision de rester ou de partir, la décision, enfin quand tu commences à... Bref, vraiment tout le truc. Je pense que ça ferait du bien à quelqu'un d'entendre que voilà, t'es pas seule à vivre ça. Ça veut dire que t'es pas seule. Que ce soit le chômage, t'es pas seule, tu vas vivre ça. Que ce soit être pas forcément bien au travail, ne t'inquiète pas, je connais aussi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je sais que ça m'aurait fait du bien à un moment d'entendre quelqu'un, genre me dire non, mais oui, je comprends en fait ce que tu vis. Parce que je vis plus ou moins la même chose. Posons-nous, réfléchissons ensemble. Peut-être on va pas arriver aux mêmes conclusions. Peut-être on va pas faire les mêmes choses. Peut-être X, peut-être Y. Mais voilà, ça fait toujours du bien de se dire, ok, je ne suis pas folle. Parce que le problème, justement, quand on vit certaines choses, en tout cas au travail, disons là avant tout ça, mais quand tu vis certaines choses au travail, c'est de parfois te dire je suis folle, d'entrer dans une solitude, d'arriver aux larmes, même parfois, parce que tu sais pas, les larmes te montent, tu es au bout de ta vie et tout, mais on va y arriver progressivement, progressivement. Donc... j'ai d'abord envie de discuter du chômage, de quand on cherche. Après, le chômage, c'est vraiment quand t'es en mode, t'es en manque de travail, t'as besoin de ce travail, t'es en recherche, on va dire, de travail. Parce que c'est pas, le chômage, c'est pas forcément toujours je n'ai pas de travail. Parce que c'est bizarre, mais il y a quelques temps, avant que je n'aie le travail que j'ai aujourd'hui, je me considérais pas vraiment comme au chômage, pourtant je ne travaillais pas. Bon, tu vas me poser la question juste pour éviter d'entrer dans les détails et te dire ouais, non, je suis au chômage. Mais il y a eu une période plus ou moins longue, ça dépend des gens, où je n'ai pas cherché. Par contre, quand j'ai fini mes études, effectivement, j'ai cherché le travail, j'ai cherché pendant près d'un an. Ah oui. Je trouve qu'il y a certaines personnes qui ont énormément de chance. Voilà. Ça veut dire que ceux qui cherchent beaucoup, j'ai envie de vous dire, arrêtez de penser que vous n'êtes pas normaux. Je ne dis pas que les personnes qui trouvent aussi rapidement ne sont pas normaux ou tout. Je dis que chacun a sa destinée, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. C'est compliqué, parfois tu te retrouves là, à chercher du travail pendant un an, voire plus. Moi, je sais que ma maman, elle a cherché le travail pendant longtemps. Pendant longtemps, c'est pendant des années, c'est pas... Voilà. Donc, je suis surtout en train de chercher le travail. Et elle me dit toujours que c'est ma petite sœur qui a débloqué. Ça veut dire que c'est quand elle a accouché ma petite sœur, elle a pu trouver un travail après. Donc, quelque part, ça a débloqué et tout. Et c'était sa destinée, entre guillemets, de vivre ça comme ça. Dieu a... On dit pas, Dieu ne veut pas le malheur des gens, mais Dieu a permis, en tout cas, que ça se passe comme ça, pour certaines raisons. Et je suis sûre qu'avec de recul, aujourd'hui, quand t'es réfléchie, elle se dit... Si j'avais travaillé, peut-être j'aurais pas eu cette heure ce dernier enfant là parce que j'allais peut-être être trop occupée. Si j'avais travaillé, peut-être si, peut-être ça, tu vois. Donc, avec le recul, tu te dis, bon, bah, c'était bien aussi. Mais non, pas toujours. Hein. Parfois, tu te dis, ouais, non, mais cette période-là, si j'avais travaillé, j'aurais pu. C'est un peu comme la retraite. Dans mon pays, je pense qu'il faut avoir travaillé 15 ans profite pour bénéficier de la retraite. Et elle, elle s'est retrouvée dans une situation, un quiproquo qui fait que on ne lui a validé que, je crois, 12 ou 13 ans. Donc, elle ne bénéficie pas de la retraite. Donc, effectivement, je pense que des fois, elle se dit, ouais, mais si j'avais commencé 2 ou 3 ans plus tôt, oui, peut-être que je machin, peut-être que si, ou peut-être pas du tout. Parce qu'elle a commencé, effectivement, elle a travaillé plus de 15 ans, mais il y a un truc qui s'est passé et tout. Donc, ça aussi, c'est quand même important. Ceux qui veulent bénéficier de la retraite, comme j'ai dit, je vais un peu vite. Donc, on revient. Ma première, après les études, la première fois que je me suis retrouvée comme ça en plein chômage, j'ai réalisé, waouh, ok, j'ai des charges à payer, des factures à payer, tout, il faut que je trouve un travail. Mes économies ne sont pas forcément suffisantes et je vais pas me retrouver en train de, voilà, de demander tout le temps par an. Je sais qu'ils vont m'aider et c'est vraiment la chance que j'ai eue. Voilà, franchement, c'est pour ça que là, on va faire vraiment des nuances. Ouais, même dans le travail, dans tous les choix, dans toutes les décisions, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai peut-être eu la facilité de prendre cette décision là, pourquoi si, pourquoi ça. Ouais, je vais vraiment essayer de me mettre pour le coup de tous les côtés. Donc t'es là, tu te dis non mais moi j'ai envie de me débrouiller toute seule, voilà, j'ai fini mes études, merci papa et maman et tout, maintenant j'ai envie de travailler et tout, mais voilà, je remercie Dieu parce qu'à ce moment là encore mes parents pouvaient me permettre de chercher du travail sans me dire j'ai des charges à payer. Je cherche en me disant non, il faut que je travaille, je dois travailler, je ne peux pas rester là après avoir fait tant d'études pour rester, pour ne pas travailler. Tout machin, ça me faisait vraiment mal. J'ai besoin de travailler, de pouvoir les aider à s'occuper d'eux-mêmes, à s'occuper de machin et tout. C'est vrai que voilà, j'ai eu la chance, ils travaillent encore. Enfin, bref, j'étais dans une réflexion, mais je remercie beaucoup Dieu de m'avoir donné ces parents-là. Ses parents qui m'ont vraiment pour le coup pas lâché, c'est-à-dire ils se sont pas dit ouais non mais là on a ok je la lâche, non, ils m'ont pas lâché, ils sont attendus. Je le dis presque à la larme aux yeux parce que on réalise pas toujours. Moi je pense que j'ai commencé à réaliser le fait que j'avais des parents géniaux. Honnêtement, aimez vos parents fort, mais j'ai commencé à réaliser le fait que j'ai des parents géniaux parce que bah déjà il y a des gens qui perdent leurs parents. Donc, voilà, à chaque fois je me dis, oh mon Dieu, dès que j'apprends que quelqu'un a perdu son parent, j'ai toujours cette tendance, je suis déjà très proche de mes parents, mais j'ai cette tendance à, dès que à les appeler, tu vois, à me dire, ok, machin et tout, ok, bon, c'est bon, ils vont bien et tout. Tu vois, du style, t'es hyper triste pour ton ami qui a perdu son parent, et en même temps, t'es dans un mood de reconnaissance totale parce que tu as encore les tiens. Donc, je remercie Dieu de m'avoir donné ces parents-là. Hormis le fait que voilà, j'ai encore mes parents et que je suis reconnaissante, il y a aussi le fait que je sais très bien, pour connaître certaines personnes, qu'il y a des parents qui lâchent leurs enfants au bout d'un certain moment. Soit parce qu'ils n'ont pas, soit parce qu'ils ont et qu'ils décident que tu es trop vieux, tu dois te débrouiller tout seul. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont compris que j'étais en train de chercher et que voilà, là, ils ne pouvaient pas arrêter totalement. Évidemment, voilà, ils payaient franchement le strict minimum parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, pour les trucs, c'est deux pays différents, deux monnaies différentes, deux pouvoirs d'achat différents. Donc, franchement, ils payaient le strict minimum. Mais j'étais très contente. Vraiment, j'étais très contente. Donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir ces parents-là. Et ça m'a permis d'aborder le chômage de façon toujours aussi triste parce que tu es là. Tu cherches, tu trouves pas, t'as l'impression que ton CV ne passe pas, même quand ton CV passe, l'entretien ne se conclut pas forcément comme tu veux. Du coup, tu te retrouves là, n'avoir rien à faire, à t'ennuyer, à regarder les réseaux, tu regardes sur Snap, tu te rends compte que voilà, t'as des gens de ta génération qui ont du travail, qui vont au travail le matin et qui se plaignent, tu vois, genre, oh, c'est trop lourd, voilà, pourquoi je rentre à 21h, machin, et tu te dis, oh, tu rentres à 21h, et maintenant, je travaille, je veux pas rentrer à 21h, ça m'intéresse pas, voilà. Mais à ce moment-là, tu te dis, eh, tu te plains de rentrer à 21h, alors que moi, j'aimerais bien rentrer à 21h, tu vois, mais bon, voilà, chacun ses réalités et tout. Et donc, t'es pas bien. À ce moment-là, je pense que ce qui m'a aidé à ne pas devenir complètement folle, c'est que je me suis posé des machins. Parce que tu vois, tu te retrouves à un stade où tu connais toutes les pubs télé. Tu connais tous les génériques de télé parce que tu regardes tout, parce que t'as rien à faire. Tu vois, et tout. Donc, je me suis dit, ok, on va se calmer déjà. Et il faut franchement qu'on essaye de garder un cadre. Ça veut dire, moi, je me levais le matin. Je ne suis pas une lève-tard. C'est très particulier, mais bon, je ne suis pas une lève-tard. En général, quand je suis couchée, jusqu'à tard, c'est soit j'ai fait la fête la veille et encore des fois je finis, je rentre à 4h du matin, 9h je suis debout, soit parfois 7h d'ailleurs, mais soit je suis malade. C'est particulier, je ne sais pas pourquoi, mais je suis du matin et bizarrement je ne suis pas du soir. Ça veut dire qu'à des fois à 20h, 21h, je me trouve couchée en train de dormir. Bref. Donc j'essayais de cadrer tout ça. Ça veut dire que je me levais le matin. Quand ma petite soeur se levait, je sens aussi heureusement que le Seigneur a fait ça. C'est-à-dire mon année, c'est l'année, mon année de chômage, c'est la première année de ma petite soeur. Oui, donc du coup, elle se levait pour aller en cours. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir ma soeur. Bref, je ne vais pas entrer dans ces détails. Je vais vous donner juste le cadre qui peut peut-être vous aider. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je me donnais un cadre. Je me levais le matin. Je ne restais pas couchée à la maison. Non, je me levais le matin. Je postulais, ça veut dire je me lève, je me douche, tout ça, je me pose devant mon ordi, je postule. Maintenant, je pouvais postuler plus ou moins calmement ou pas, ça veut dire je pouvais postuler tranquillement, poser dans ma chambre, dans mon lit, quand il faisait froid, ou je pouvais postuler devant la télé, ainsi de suite, mais je me débrouillais, je postulais. Je postulais pendant 2 heures, voire 3, ça dépend. Je me levais, j'allais faire des courses ou si j'avais des trucs à faire, je mangeais, je faisais à manger, je tournais devant la télé, je postulais encore vite fait après, mais vraiment plus aussi sérieusement, mais je me donnais un cadre, il fallait que je cuisine, il fallait que je range la maison, je fasse un ménage, il fallait que je sorte un peu pour voir le dehors, il fallait ci, il fallait ça, donc je me donnais un petit cadre histoire de ne pas déprimer, parce que ce qui fait souvent la dépression, c'est le fait de rester là devant la télé, devant les réseaux, à scroller, à regarder les autres qui font leur vie. Du coup, tu commences à comparer, tu commences à déprimer et c'est pas bon. Donc, j'essayais vachement de faire ça. Et parfois, ça ne fonctionnait pas, tu vois. Parfois, je n'allais pas bien. Parfois, je restais dans mon lit, je suis debout, ma soeur part. Je lui dis, vas-y, passe une bonne journée et tout. Et je reste dans mon lit. Quand elle revient, il n'y a pas à manger. Je dis, on mange dehors ou on commande, c'est bon. Voilà, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en peux plus. Moi aussi, je veux sortir travailler. Enfin, tu vois, t'es dans un mauvais mood, il y a des mauvais jours. Mais j'essayais de faire quand même le maximum pour avoir de bons jours assez souvent. Voilà. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Si aujourd'hui, t'es en recherche d'emploi et tout, et que t'as l'impression de tourner un peu en rond, bah, tu peux te dire, ok, je postule, je me donne des heures pour postuler et pas le week-end. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire, moi c'est vraiment mon conseil, après chacun fait comme il veut. Pour que je postule le week-end, en général il fallait vraiment que quelqu'un m'envoie une offre particulière. Sinon, le week-end c'était le week-end. Je prenais mon week-end comme quelqu'un qui travaille. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais ici, je prenais mon week-end à partir du vendredi soir. Ma petite soeur et moi, on était en week-end toutes les deux. On était tranquilles. Vous voyez. Donc, c'est vraiment mon conseil, essayer de s'occuper par des choses qu'on aime bien. Essaye de postuler. Si tu peux faire des cours d'anglais aussi, ou des cours de langue, des cours d'un truc que tu vas apprendre, faire si tu as la possibilité, parce que tu as peut-être un peu d'argent de côté, de faire peut-être, comme je disais, des cours d'anglais, de jeu de tennis, de machin, vas-y, fais. Il faut le faire, d'accord? Maintenant, bizarrement, je vais donner d'autres conseils pour ma deuxième partie de chômage. Donc voilà, je travaille et tout, et puis j'arrête, machin. Donc, à un moment, il faut recommencer à chercher. La vérité, c'est que je vis mieux la deuxième partie parce que j'ai déjà travaillé dans un environnement que je considère comme malsain. C'est moi qui considère. Ça ne veut pas dire que l'environnement était malsain pour tout le monde, mais pour moi, ce n'était pas très sain. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, je considère que là, peut-être Dieu a juste besoin. Je veux me laisser me reposer. Ça. Et je me donne ce droit-là. Je me donne ce droit-là de me reposer, mais pas totalement. Ça veut dire que je ne reste pas couchée dans mon lit, machin, non. Je me donne ce droit de me reposer, mais de monter quelque chose à côté, de faire un petit business. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous donner un autre conseil. Si vous avez un peu d'économie de côté, un peu d'argent de côté, moi, quand je suis rentrée, bon, j'en avais un tout petit peu. Voilà. Si vous avez un peu d'économie de côté et que vous avez la possibilité, vous n'avez pas, par exemple, de charges à payer, là, ça dépend. Franchement, si vous avez des économies de côté, que vous avez des charges à payer, bah, ne foncez pas forcément dans un projet. Enfin, ça dépend de quelle économie, quelle est la quantité d'économie que vous avez. Mais offrez-vous peut-être des vacances. Faites-vous du bien. Parce que c'est ce qui s'est passé après. Enfin, Non, on va les appeler ça. Oui, parce que ça, c'est vraiment l'après-travail. Tu vois, après, je quitte un travail. Mais bon. Donc, si vous avez de côté, comme je disais, faites un petit projet à côté. Ouais, restez pas sur place. Moi, je sais que je me suis lancée dans 2-3 projets pendant cette période. J'avais pas envie, genre au début, j'avais pas envie de chercher du travail pour l'instant. Donc, je me suis concentrée dans les projets. Et ensuite, j'ai commencé à chercher, mais au moins, j'avais mes projets. Et ça fait que je cherchais, mais j'étais pas stressée trop, parce que j'étais aussi occupée ailleurs. Mon cerveau était occupé ailleurs. Donc, je jonglais. Après, évidemment, quand j'ai trouvé, j'ai commencé à travailler. Mes projets ont dû. J'ai dû mettre un peu le frein. Ça veut dire que j'ai pas mis stop totalement, mais je. Comment dire, je suis. Vu qu'il faut que je me partage avec le travail, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Ouais, ça veut dire que ce que moi je conseille, entre guillemets, dans le cadre de chômage, c'est vraiment déjà accepter parfois que bon, j'ai peut-être travaillé pendant longtemps, j'ai fait plein de choses. Là, j'ai besoin de me reposer. Acceptez de vous accorder quelques temps de repos. Ça dépend plus ou moins en fonction de votre économie, en fonction de plein de choses. Comme j'ai dit, moi j'ai eu la possibilité parce que mes parents étaient là. Maintenant, je peux comprendre quelqu'un qui n'a pas, comment on va dire, ce filet de sécurité-là et qui sait que voilà, j'ai des charges en fait. J'ai des charges, c'est-à-dire comment je veux dire ça? Parce que enfin, après le travail, tu as quand même tes économies. Donc tu sais que bon, ok, ça peut gérer, machin. Moi, c'était vraiment ce qui s'est passé. Je me suis dit, ok, ces économies peuvent gérer ça. Mais à partir de tel temps, je serai un peu dans la pipe. Merde. Voilà, disons-le, tu vois. Et tout. Donc j'étais comme ça, je réfléchissais, machin. Après, c'est la période où je suis revenue. Je suis rentrée chez moi, donc je suis rentrée chez mes parents, donc j'avais plus de charges à payer et tout. Merci Seigneur. Mais ce que j'ai dit justement, c'est que moi j'ai eu ce filet de sécurité. Et peut-être c'est ça qui m'a facilité un peu de me dire voilà, enfin, m'a moins stressée. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'étais pas stressée. Je cherchais tout autant, j'en avais marre tout autant de rester là. Mais machin. Donc je peux comprendre quelqu'un qui, du coup, doit s'occuper de lui, même s'il n'a pas de travail, c'est compliqué. Et donc là, dans ce cas-là, moi je vous dirais de chercher. Enfin, vous êtes en train de chercher un CDI et tout. En attendant, vous pouvez essayer peut-être de trouver des jobs, des cours de répétition, ainsi des trucs autour qui vous permettent d'avoir un peu d'argent, du coup, d'un peu sortir et de pouvoir payer vos charges. Voilà. Donc, c'est mon conseil. Après, j'ai envie de dire, c'est juste moi, tu vois. Chacun fait comme il veut. Chacun a sa vie, chacun sa destinée. Ensuite, nous allons prendre le cas maintenant du travail. Ça veut dire, tu postules, tu as le choix. Entre voilà, du travail et tout, qu'est-ce que tu choisis? Je dis toujours que c'est important de faire la liste des trucs importants, de nos importances, entre guillemets, j'ai beaucoup important dans cette phrase, pour le travail, de ce qu'on choisit en premier. Qu'est-ce qui nous attire le plus vers le travail? Avant, j'avais cette facilité à répondre, oh non, le salaire. Puis j'ai compris que non, pas du tout. J'ai compris que pas du tout. C'était pas le salaire, pour moi en tout cas. Donc, ce que je propose, quand vous avez du choix entre deux ou plusieurs entreprises, c'est vraiment de vous asseoir, de faire une liste, de vous dire, ok, pour moi, peut-être le plus important, c'est le salaire. Après, le salaire, c'est ça. Ça fait que je choisis l'entreprise qui a le plus de mes critères. Enfin, genre, ok, le meilleur salaire, c'est là-bas. Pour moi, c'est important, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, enfin, quand je parle de salaire, je sais que certaines personnes ont des projets. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, voilà, sur 2 ans, je suis peut-être en train de vouloir me marier, donc il faut que je mette de côté pour le mariage, j'ai envie de construire ma maison, il faut que je mette de côté. Enfin, j'ai un projet qui nécessite de l'argent. Ça veut dire que peu importe où je vais là où il y a le meilleur salaire. Peu importe ce qui se passe là-bas, je m'en fous, je suis là pour le salaire. Tu vois? Et quand ta semaine, cette là, peu importe ce qui se passe effectivement, t'es dans le truc. Maintenant, moi, je sais que avant de trouver mon travail, hein, quand j'étais en recherche et tout, en discutant, j'avais pris, justement, toujours dans un souci de m'améliorer et de ne pas m'ennuyer, je voyais un conseiller et tout. Donc, des fois, on discutait. Voilà. Et la personne m'avait dit, ouais, mais bon, voilà, vous voulez pas postuler en cabinet, j'ai l'impression, quand je regarde machin et tout, je lui dis non. Elle m'a demandé pourquoi. Non, en fait, non. Non. C'est pas ça. C'est ma soeur après. En fait, elle me dit, on discute avec ma conseillère, parce que c'était une dame cette période-là. On discute et puis après, elle me dit, non, mais quand je réalise qu'en fait, vous n'êtes pas faite pour les cabinets, elle me l'a dit clairement. Je dis, ah bon, elle me dit, non, en cabinet, c'est très. Les requins qui mangent les petits poissons, enfin, c'est très. Tout le monde veut se manger, tout le monde veut se taper, passer au-dessus de l'autre. C'est pas je me surpasse dans mon travail, c'est je veux passer au-dessus de l'autre et que ça crée une compétition assez, assez compliquée. Donc, elle me dit, avec votre profil, je pense que vous ne pouvez pas. C'est pas quelque chose qui vous passionne, je ne vois pas du tout. Hein. Et en fait, c'est à ces moments-là que je commence à comprendre que, bah, il y a. autre chose que le salaire, en fait, parce que ces cabinets-là, ils payent bien. Mais si j'arrive là-bas et que finalement tout ce qui compte autour de moi, c'est enfin, tout le monde veut me pousser vers le bas, alors que moi je m'en fous de vous, je suis juste venue travailler et tout, c'est pas un environnement de travail qui, voilà, qui m'attire. Et c'est là où je réalise que pour moi l'environnement de travail est plus important que le salaire, est plus important que la distance de la maison. Parce que je disais souvent, moi le plus important dans mon travail, c'est que ce soit bien payé, que ce soit pas trop loin de la maison. Et je me suis retrouvée en train de travailler dans une autre ville. Pour vous dire, tu vois, ça m'a fait quand même du bien. Donc il faut absolument se demander à soi-même ce qui est important pour nous. Et il faut essayer de voir les critères de chaque cadre dans lequel on va travailler, de chaque entreprise. Essayer de se renseigner, ça c'est un truc qu'on ne fait pas toujours, mais essayer de se renseigner sur les salaires, pas de ces entreprises-là forcément, à part si vous connaissez quelqu'un qui peut, voilà, vous aiguiller, mais des salaires de votre poste, même dans d'autres entreprises, combien c'est payé, machin, pour pouvoir en tout cas entrer dans les négociations et ainsi de suite. Pour savoir, vous devez essayer de comprendre comment ils travaillent, la culture, le turnover, enfin savoir à votre poste, est-ce qu'il y a eu des gens, machin, pour savoir à peu près si on a un patron chiant ou pas. Discuter bien avec le patron. Bon, mais bon, c'est vrai qu'à l'entretien, on peut pas forcément toujours savoir, mais essayez quand même. Essayez d'avoir le plus d'informations en fonction de votre liste de préférence, de votre liste d'importance. Essayez d'avoir le plus d'informations. Ça te permet de choisir le truc. Mais si, franchement, le plus simple, c'est vraiment mon critère, c'est le salaire. Parce que tu prends le travail qui est le mieux payé, puis c'est tout. Et pareil, il faut calculer. Parce que des fois, tu te dis, le plus important, c'est le salaire. Tu te retrouves dans un endroit, dans une entreprise où on te paye plus. Mais quand tu regardes la distance de chez toi, tu regardes, tu te rends compte que tu vas devoir peut-être partir pour prendre une nouvelle maison qui peut être du coup un peu chère. Donc t'enlever ce cher salaire, le transport, ainsi de suite. Et je me rends compte que finalement, avec l'autre qui était peut-être plus proche de chez toi et avec un salaire un peu moins, tu as plus à la fin du mois quelque part en enlevant tes charges. Bref. Je pense que c'est important quand même de réfléchir à tout ça. Quand on a un premier CDI, malheureusement, on n'y pense pas toujours. On se dit, ah, le CDI, ah mon Dieu, j'ai deux propositions, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, on est juste content et c'est normal. Mais des fois, il faut se dire, ah non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je prends en premier? Quel genre de personne je suis? Tous les jours ici, j'essaie, enfin pas tous les jours, mais j'essaie à un moment de vous parler de santé mentale. Ça rentre en jeu dans tous les plans de votre vie. Donc là, c'est important de se demander quel genre de personne je suis, en fait. Je suis quel genre de personne? Si je suis pas une personne, si je suis une personne que j'aime pas, enfin, je suis un peu dans mon coin, je suis... j'aime pas qu'on me bouscule, je suis machin, j'évite un certain cadre de travail, tu vois. Mais à ce moment-là, voilà, c'est ton premier CDI. Déjà, tu postules partout, parce que voilà, avec le même CV, arrêtez de faire ça. Et puis, si tu balances les lettres de motivation, toujours la même chose. Bon, ça, vous pouvez, parce que... mais aussi arrêter, franchement, personnaliser à chaque fois ou envoyer le même CV dans les entreprises. En vrai, vous êtes en mode bon, s'ils me prennent tant mieux, sinon tant pis. Mais vos entreprises de cœur, essayez de personnaliser tout. Et puis voilà. Donc maintenant, tu as fait le choix. Tu as trouvé ce travail, tu as trouvé ce CDI. Il y avait un choix, tu as pris ta décision, tu es entré dans cette entreprise et voilà, tu commences. Tu es en période d'essai. Et je vais vous expliquer un truc sur la période d'essai qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas toujours. La période d'essai, tout comme l'entretien, c'est les deux parties qui doivent prouver leurs choses. Ça veut dire que tu peux aller en entretien, ça se passe très bien. C'est-à-dire la personne dit je vais te garder, mais toi, tu as senti qu'il y a un truc qui n'allait pas et tu ne viens pas. Tu as le droit. Tu vois, ce sont les deux. Chacun étudie l'autre, en fait. La période d'essai, c'est pareil. Tu as 3 mois, voire 6 mois de période d'essai où vous étudiez l'un l'autre. Toi, tu étudies tes patrons, le poste que tu as, est-ce que c'est ce qu'on t'a vendu? Est-ce que ce qu'on t'a vendu, c'est ce que tu as? Et tu étudies aussi si ce que tu as mis dans ton CV, ce que tu as dit dans ton entretien, c'est ce que tu fais. Et à la fin, normalement, il devrait avoir une sorte de bilan. Malheureusement, ça ne se fait pas toujours. Tu te retrouves là en train d'être engagé parce que ta fin de période d'essai est passée et puis on ne t'a rien dit. Mais il devrait avoir un bilan, ce serait bien. Après, si ça vous arrange, ça veut dire que si tout s'est bien passé, bah, vous passez, vous êtes content. Mais si vous sentez qu'il y a un problème, demandez quand même à vous asseoir et à faire ce bilan-là. Moi, je pense que c'est une erreur que j'ai commise et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon premier CDI, j'étais tellement contente de l'avoir que à la fin, on a pourtant fait un bilan, mais j'ai rien dit, j'étais là comme ça et tout. Au moins, je veux pas perdre mon travail et tout. Et bizarrement, au deuxième ici, il n'y avait pas de bilan. Et pareil, c'est une erreur que j'ai faite parce que j'aurais dû demander. aujourd'hui je m'en rends compte, mais c'est pas grave. Franchement, au bout d'un an, normalement, on devrait m'évaluer. Si on ne m'évalue pas, je vais demander l'évaluation. Donc ça, c'est pas grave, je vais demander l'évaluation parce que je pense que j'ai besoin qu'on me rappelle exactement quelles sont mes fonctions, enfin bref, et tout, qu'on discute. J'ai besoin de discuter un peu avec des personnes, mes supérieurs, pour essayer de voir et de cadrer deux, trois trucs. Donc, ce que je disais justement, c'est que cette peur d'essai, vous avez le droit. Le problème, c'est que les gens ne sont pas toujours au courant qu'ils ont le droit. Ils se disent, on me surveille, ils n'arrivent pas à réaliser qu'eux aussi ils surveillent les autres. Donc, ils sont là, comme ça, vivent dans la peur, et tout, alors qu'ils devraient aussi observer un peu ce qui se passe autour. C'est important. Maintenant, à la fin de la période d'essai, honnêtement, si vous ne vous sentez pas, moi, le conseil que je peux donner, c'est pas toujours un truc qu'on fait, parce que quand tu viens de travailler, tu as envie de te faire plaisir, mais le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment les 3 premiers mois de période d'essai, vos salaires, faites attention, faites gaffe. Ça veut dire mettez de côté. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la période d'essai, déjà, vous ne savez pas, petit 1, si on va vous garder. Petit 2, vous ne savez pas s'il va se passer un truc qui va vous donner envie de partir. Donc c'est important de faire des économies pour qu'au cas où vous ayez quand même, vous pouvez voir venir 2-3 mois encore, ouais, en attendant de trouver le travail. Ouais, je ne sais pas comment expliquer. Ou vous demandez une deuxième période d'essai, vous faites 6 mois, vous mettez de côté, ouais, franchement, vous jonglez de cette façon-là. Moi, je pense que ça peut le faire. Ensuite, la période d'essai est finie, tout s'est bien passé pendant la période d'essai, vous commencez le travail. Beaucoup de choses peuvent se passer. Vous pouvez vous retrouver, effectivement, c'est comme dans la période d'essai, tout est normal, tout est nickel, vous vivez votre vie et puis vous travaillez là. Il y a des choses qui énervent comme partout, mais bon, la plupart du temps, c'est positif, donc voilà, vous faites des efforts et tout. Comme malheureusement, vous pouvez vous trouver dans un environnement toxique pour vous. Je vous explique, et je pense que je vous ai déjà expliqué un truc avant. Je suis noire. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bon, je suis africaine. J'ai déjà dit ça. Et le problème des Africains, je sais pas si j'ai dit, mais je pense, je vais le répéter au cas où j'ai déjà dit. Le problème des Africains, quand ils vont en Europe ou dans d'autres pays, c'est que déjà, ils n'ont pas la notion de santé mentale. Et ensuite, ils se disent, il faut que. Enfin, sans faire exprès, tu te dis, j'ai des choses à prouver. Il faut que je sois à fond. Sauf que tu peux parfois te retrouver dans une entreprise où waouh, voilà, on apprécie ton travail, tout se passe bien. Comme des fois, tu peux te retrouver dans une entreprise où bah, de toute façon, t'es noir. Donc on se dit qu'on peut te faire un tas de choses, tu vas rien dire. Parce que c'est comme ça qu'on est. Nous sommes comme ça qu'on se le dise. Il y a très peu qui peuvent taper le poing sur la table, très peu de noirs qui disent moi, franchement, vous ne me faites pas ça. On a tendance à se dire ouais, non, mais c'est mon travail, j'ai pas envie de le perdre et tout. Je suis contente parce que plus les années passent, plus j'entends des histoires où des noirs disent ça, je peux pas. Je tape le poing sur la table, tu vas pas me faire ça. Et puis voilà, des noirs partent, des noirs. On devient de plus en plus malin, de plus en plus intéressant, de plus en plus intelligent. Je dis pas que nos parents n'étaient pas malins, mais bon, ils aimaient bien être très soumis. Je ne sais pas pourquoi. Donc, tu te retrouves dans un environnement où tu te rends compte que c'est assez malsain pour toi de rester là. Et toi, parce que t'es africaine, tu te dis non. Et même, j'ai pris le cas extrême, entre guillemets, même tu peux te retrouver là, tu travailles en Afrique, et il y a des choses qui se passent qui te plaisent pas forcément, qui te mettent mal à l'aise et tout. Et tu te dis non, mais j'ai besoin de cet argent, je dois travailler. Et tu te retrouves là en train de serrer les dents. Sauf que c'est particulier. Au lieu de te dire, ok, j'ai besoin de cet argent, donc du coup, je me donne encore peut-être 6 mois dans cette entreprise en serrant les dents, et ça me permet de mettre de côté, de commencer à chercher un autre travail. Non, non. Tu continues à vivre pareil qu'avant, continues à dépenser de la même façon à faire ta vie. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais arrêtez. Arrêtez, parce que la santé mentale, c'est hyper important. Donc, moi, je vais vous raconter mon cas. Ensuite, je prendrai justement le cas d'une amie qui va écouter. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je sais que quand elle va écouter, finalement, elle va savoir. Parce que j'ai l'impression, enfin, dès qu'elle m'a raconté son cas, je lui ai dit, voilà. J'ai dit, c'est du foutage, je suis désolée, mais... C'est-à-dire, elle était au bord des larmes là-bas. Moi aussi, j'étais au bord des larmes. Ici, je me racontais à ma mère qui était au bord des larmes. Tu vois, genre, on était toutes... Enfin, elle était au bord des larmes, vraiment, de tristesse, de frustration. Moi, j'étais au bord des larmes de colère, de frustration. Ma mère était au bord des larmes de frustration, en fait. Enfin, juste de frustration, genre, non, mais on va pas traiter nos enfants comme ça. C'est quoi cette histoire et tout. Et voilà. Donc... Mais je suis contente. Franchement, avant de continuer, je dois dire que quand elle m'a annoncé qu'elle a trouvé un autre truc, oh Seigneur, j'étais contente. Non, 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 je le dis, mais oh, j'étais tellement contente. C'est-à-dire, j'ai passé une merveilleuse journée. journée, je crois le lendemain, je pense qu'elle m'a dit ça un soir, je sais plus, mais je sais que j'étais dans un état, je me suis dit merci Seigneur, merci parce que je connais, c'est-à-dire c'est quelqu'un que je connais, c'est une amie que c'est mon amie depuis plus de 15 ans parce que je connais depuis 15 ans plus de 15 ans, ouais, voilà. Et c'est quelqu'un qui est tellement bien, quelqu'un qui est gentil, elle est généreuse, elle est machin, et je sais que comme elle a le cœur sur la main, je sais que c'est aussi une hypersensible. Je sais que c'est une hypersensible et que des trucs comme ça, ça la touche. Sauf que elle a tendance à ne pas, enfin, à partager toujours un peu de joie. Ça veut dire que elle va s'asseoir très loin, elle va pleurer très loin, et c'est bien après qu'elle va te dire ouais, mais j'avais même pleuré. Tu te dis mais pourquoi j'étais pour courir. Mais c'est comme ça qu'elle est. Donc quand j'ai appris qu'elle a trouvé le travail, surtout quand elle m'a décrit un peu qu'elle serait potentiellement un nouvel environnement au travail, j'ai dit mon Dieu, c'est tout ce qu'il te fallait. C'est tout ce qu'il te fallait, t'avais besoin d'un peu plus de calme, voilà, peut-être avec des gens un peu plus calmes et respectueux, je suis désolée, mais bon. Donc, comme je disais, je vais commencer par mon histoire, entre guillemets. Je pense que quand j'ai parlé de dépression, je vous avais déjà plus ou moins raconté que je me suis retrouvée dans un état enfin, j'étais en train de faire un burn-out, finalement, sans m'en rendre compte. Sauf que le burn-out ne venait pas, et c'est ça qui est particulier, c'est qu'à un moment on se dit le burn-out, ça vient souvent du trop plein de travail, et en général c'est souvent ça, c'est-à-dire les gens travaillent trop, ils font un burn-out. Mais pour moi je pense que le burn-out, c'est vraiment un mélange, ça peut être trop plein de travail, ça peut être ok il y a du travail, mais derrière il y a des personnes, t'as l'impression qu'ils te mettent des bâtons dans les roues, enfin t'as l'impression qu'ils te dérangent toujours un peu trop. Donc du coup, je me suis rendu compte, enfin je vous avais dit, on m'avait mis sous antidépresseur, enfin j'étais pas bien, mais je ne m'en rendais même pas compte, parce que voilà, je forçais, tu vois. Là pour le coup, je vous ai déjà dit comment j'aime mes parents, mais je me rappelle, mes parents et ma grande soeur, c'est des personnes qui sont très, je te motive en fait, très, n'abandonne pas, et ils étaient aussi très comme ça, genre n'abandonne pas, tu peux le faire, moi ma fille elle est forte, je sais machin, et je pense que pour le coup ça n'a pas aidé, d'habitude c'est un truc qui m'aidait énormément, vachement. Et je pense qu'à ce moment-là, ça peut aider parce que justement, j'ai forcé et je suis tombée malade. Donc, quelque part, après, je les comprends, ils ne vivaient pas avec moi, ils ne savaient pas. Tu vois, je pense que c'est bien après, quand ils ont discuté avec ma petite sœur sur certains sujets, et je l'ai su que très récemment, quand ma mère m'a dit « Ah non, non, quand tu es revenue, quand tu m'as entendu dire « Ok, tu peux revenir, machin », c'est que j'ai causé avec ta sœur et elle m'a dit « Vous ne la voyez pas ». Ma sœur lui a dit ça, qu'en fait, vous êtes là-bas, vous ne la voyez pas. Quand elle dit qu'elle va rentrer, laissez-la rentrer. Parce que vous ne la voyez pas. Et en fait, quand j'entends ça, parce que c'est ma petite sœur, ouais, c'est mon bébé. Dans ma famille, je suis... Enfin, tout le monde est un peu mon bébé, même mes grands frères. Bébé dans le sens, je les aime trop. Mais elle, c'est vraiment mon bébé dans le sens, enfin, c'est ma petite sœur. Et savoir qu'en fait, elle a appris, enfin, qu'elle a été au téléphone avec mes parents, quelque part, un peu tenir tête, finalement, parce que, de base, ils n'avaient pas envie, c'était en mode, vas-y, bats-toi, et je ne me voyais pas rentrer sans leur accord, ouais, je ne me voyais pas faire ça, je ne suis pas, c'est bizarre, mais je ne suis pas une têtue, à ce point, en tout cas, je fais pas beaucoup de choses sans leur accord, en fait, surtout des choses comme ça, après, quand c'est ma vie privée, voilà, mais surtout des choses comme ça, et en fait, quand j'ai su, récemment par ma mère, ce qui a débloqué tout ça, c'est vraiment ma petite soeur qui leur a dit, en fait, vous ne la voyez pas, moi, je la vois. Je savais déjà qu'elle avait été inquiète pour moi, je l'ai su parce qu'elle a pris une décision. Elle a pris la décision de revenir vivre avec moi alors qu'elle était tranquille, elle vivait sa vie, elle avait son indépendance. Elle a pris la décision de venir passer quelques temps avec moi. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'elle s'inquiétait. Parce que sinon, en vrai, elle n'habitait pas extrêmement loin, on se voyait, on était dans la même ville. Mais voilà. Bref, l'émotion, tout ça. Donc, je me suis... et justement, l'amie dont je parlais aujourd'hui, c'est l'une des personnes qui a fait en sorte que je sache que j'étais en burn-out, parce que c'est elle qui m'a envoyée à l'hôpital, l'amie dont je viens de parler. Je ne sais pas si je vous ai raconté. En bref, je travaillais. Il y avait pas mal de choses qui se passaient que je n'appréciais pas. Je me suis rendu compte, par exemple, que ma vie privée, entre guillemets, privée, c'est-à-dire mais tout ce qui est papier et tout, au bureau, elles avaient un groupe WhatsApp où elles en parlaient. Je me suis dit, attends, logiquement, vous n'avez pas le droit. C'est ma vie privée. Petit 1. Et en plus, c'est un groupe où je ne suis pas. Encore, j'aurais été là et c'est moi qui lançais les conversations et puis bon, réfléchissant ensemble ou bien machin, j'aurais compris. Elles étaient au courant avant moi de certaines choses qui me concernaient. Elles étaient au courant de certaines choses que j'aurais dû savoir bien longtemps avant. Ma supérieure, encore que je dis toujours ma supérieure, mais en vrai, ce n'est pas ma supérieure. de base. Je fais un métier qui me relie directement. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais je fais un métier qui me relie directement au directeur, enfin au DG ou aux associés. Ça veut dire que normalement, j'ai pas d'autres supérieurs que. Essayez de creuser, vous allez comprendre. Donc du coup, c'est pas vraiment ma supérieure, mais on va dire que bon bah ça faisait moins d'un an que j'étais là, donc il me fallait quelqu'un d'autre à part l'associé et tout, à qui je devais entre guillemets rendre compte, en tout cas quand je devais peut-être partir du travail et tout, mais voilà. Et donc cette femme là, franchement je ne souhaite que du positif dans sa vie, parce que je ne souhaite que du positif aux gens, mais elle s'est comportée vraiment comme une merde avec moi. Il faut qu'on se le dise, elle s'est comportée comme une merde. Elle m'a mise dans une situation, je vais pas entrer dans ces détails là parce que ça sert à rien, mais je me suis retrouvée dans une situation où bah forcément je n'allais pas bien, je réfléchissais pour plein de choses, machin. Et je me rappelle, je devais aller à l'hôpital, je sais pas si j'ai déjà raconté, mais bon je vais raconter, je devais aller à l'hôpital parce que j'avais de fortes douleurs à la tête, j'étais vraiment, j'avais très mal. Et moi je suis migraineuse, donc en bref les douleurs à la tête je connais. Si j'arrive au point où j'ai envie d'aller à l'hôpital, ça veut dire que c'est à un niveau quand même supérieur. Je dormais très mal, enfin, franchement j'allais pas bien. Et donc un jour je dis à mon ami, voilà je vais prendre rendez-vous pour l'hôpital. Et dit ok, franchement il faut et tout. Donc je prends rendez-vous. Sauf que ce jour-là, ma boss me dit oui non mais il faut qu'on se fasse une petite réunion tranquille et tout. Je me dis ok. Ce qu'il faut savoir c'est que la veille de cette histoire, j'ai une amie qui vient me voir, une amie avec qui je travaille qui vient me voir, qui me dit bon j'ai eu une information. Moi j'ai dit clairement que on m'a donné l'information, je vais te le dire, je suis pas là pour machin. Donc elle me donne une information quand même assez capitale que j'aurais dû avoir, j'ai envie de dire quelques semaines avant, mais c'est pas grave. Donc elle me donne l'information, je dis ok. À ce moment-là, je commence à penser à la suite. Donc du coup, je pense que ouais, ça joue sur mon moral, le fait aussi de savoir que tout le monde au bureau est au courant sauf moi, enfin ça joue énormément sur mon mental, je me sens pas bien, mais bon, tu vois, t'es dans un bureau, t'as envie de parler à personne, parce que franchement, tout le monde t'énerve, beaucoup de choses qui t'es... En fait, il y avait une accumulation, tu vois, t'es dans un bureau, par exemple, où il y a une personne qui se lève de temps en temps, elle part, elle se balade, elle part à midi, soi-disant la pause, elle revient là à 17h ou bien elle revient pas. Le lendemain, elle vous raconte comment ouais, elle allait acheter des tenues pour son fils, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le monde rigole, c'est drôle, machin, là, 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 là. Tu te rends compte quand tu regardes au niveau de... Parce que j'avais accès à ça, au niveau de ses heures d'absence et tout ça, qu'il n'y a pas d'absence. C'était comme si elle était là à ce moment-là. Puis un jour, toi, tu te lèves, tu dis à ta boss, je dois aller à l'hôpital, je ne me sens pas bien. Et tout. Toi, tu vas, j'avais eu un gros torticolis et tout, donc je vais et je souffre de cervicalgie. Donc, bon, cette zone-là, assez sensible et tout ce qui est nuque et tout machin. Donc, je vais à l'hôpital. Je reviens même avec une minerve. C'est-à-dire, la minerve est là et tout. Je reviens avec et je me rends compte que. Elle m'envoie un message. Parce que si je m'étais encore rendu compte, juste que bon, voilà, j'ai eu mes heures d'absence, enfin, c'est la vie, tu vois, et tout. C'est pas grave, machin. Elle m'a d'abord mis tout l'après-midi d'absence, alors que j'étais partie, j'étais revenue, mais bon, ça c'est pas grave. Et en plus, elle m'envoie un mail. Oui, ici, voilà, quand tu fais ça, tu dois demander une absence et tout et tout. Je me suis dit, attends, j'ai demandé l'autorisation d'absence ici. Et puis, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, j'ai réussi à avoir un rendez-vous, machin. Est-ce que je peux partir? Elle m'a dit, ouais, non, il n'y a pas de problème et tout, tu souffres et tout, machin. C'était pour ça. Ok. C'était ça, plus l'accumulation de plein de choses, mais je faisais hyper bien mon taf. C'est-à-dire, j'ai eu un moment, le syndrome de l'imposteur, et même maintenant dans mon nouveau travail j'ai le syndrome de l'imposteur, enfin, c'est-à-dire de temps en temps je me dis qu'est-ce que je fais là, comment je fais machin, mais à ce stade-là je savais très bien que je faisais très bien mon taf parce qu'elle me l'avait dit. Elle m'a dit, l'associé est très content de ton travail, il trouve que tu travailles bien et tout. En même temps, il ne fallait pas faire énormément de choses pour bien travailler à ses yeux, parce que sans vouloir manquer de respect, tout le reste était vraiment, enfin tout ce qui en tout cas qui était dans mon bureau ne faisait pas grand chose, c'est mon avis. Donc qu'est-ce que je disais? Donc du coup, je devais aller à l'hôpital. Elle me dit non, enfin on a machin. Donc je me retrouve là, je me dis mais elle est où? J'ai rendez-vous à l'hôpital à 17h. Là, go tourne, elle n'est pas là. 16h45, donc c'était pas long, je finis par prendre mes affaires. Elle dit bon, moi je... Non, qu'est-ce que je raconte? Je reste là. Ce jour-là, je reste là. C'était un mercredi. Je reste toute la journée, je rate mon rendez-vous à l'hôpital. Elle me fait pas signe, elle me dit rien. Le lendemain, je lui dis, ouais, mais pour la réunion, oui, non, oh, hier, je pouvais pas, machin, mais aujourd'hui, c'est sûr, il faut qu'on le fasse et tout, c'est hyper important et tout. Je lui dis, ok. Je savais plus ou moins ce qu'était le contenu de la réunion et je savais que c'était important, donc je lui dis, ok. Ce jour-là, pareil, je lui dis, j'ai rendez-vous à l'hôpital, par contre, à 17h, net, parce que je finissais à 17h. normalement, net. Et en général, tu pourrais me trouver là à 20h. Mais bon, je finis ça à 17h, net. Donc je lui dis, ouais, j'ai rendez-vous à 17h, net. C'est juste que je vais partir un peu 5 minutes avant pour pouvoir aller à l'hôpital. Oui, non, on va faire la réunion à un moment vite fait et tout. Il n'y a pas de souci. Je lui dis, ok. Pareil, j'attends toute la journée, rien, je rate mon rendez-vous à l'hôpital. Ce qui se passe donc, c'est que j'arrive le vendredi, je rentre. Parce que j'étais avec cette période-là, je vais avec mon amie, justement, je rentre. Et en fait, elle me regarde. Je pense que c'est le vendredi matin. Donc, je rentre le jeudi soir et tout. Le vendredi matin, elle me regarde. Elle me dit, non, mais honnêtement, aujourd'hui, il faut que tu ailles à l'hôpital. Je lui dis, genre, je suis étonnée, je lui dis, comment ça? Elle dit, non, je vois tes yeux, tout ça, non, il faut que tu ailles à l'hôpital aujourd'hui. Genre, en mode, peu importe ce qu'elle, elle fait là, tu prends ton rendez-vous et tu y vas. Ok. Donc, je prends mon rendez-vous. Et je me dis, bon, aujourd'hui, j'y vais. Donc, j'arrive, je lui rappelle même pas son histoire de réunion, je reste dans mon coin. Je pense qu'elle a encore fait son folklore de réunion. Vraiment, j'écoutais pas. Je lui ai juste dit 17h, moi je suis pas là. Je pars à 16h50, je vais à l'hôpital. Donc voilà, je vais à l'hôpital et tout. Je me pose. Bizarrement, ce jour-là, à partir d'un certain moment, elle commence à m'appeler, elle, plus les filles de mon bureau, tu vois, en mode inquiète. J'écoute mes messages et j'entends, oui, mais voilà, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? Qu'est-ce que vous... Enfin, bref. Donc, je suis allée à l'hôpital. Ce jour-là, j'ai découvert qu'on allait me mettre sous antidépresseur. Parce que, voilà. Parce que c'est ce qui devait arriver. Et donc, je me rappelle, je suis sortie. Et c'est pour ça que je vous disais, vous vivez parfois des situations malsaines dans votre travail. Ça peut être tout genre. Ça peut être du harcèlement. Ça peut être un collègue qui vous dit n'importe quoi, vous tape les fesses, ainsi de suite. Ça peut être plein de choses. Donc, peu importe, un truc qui vous met mal à l'aise. Et donc, je suis sortie ce jour-là de l'hôpital. Et je me rappelle... J'ai eu ma mère au téléphone. Je lui ai dit, ouais, maman m'a mis son antidépresseur. Elle a dit, ok, tu démissionnes. Point. Il n'y a pas eu de discussion longue sur quoi que ce soit. Je pense qu'à ce moment-là, elle s'est dit, ma fille sous antidépresseur. Non. Mais on laisse. Parce que de base, j'avais déjà parlé de démission 2 jours avant. J'avais déjà parlé de démission 2-3 jours avant. Je me rappelle, j'avais parlé même à mon copain de la période là, la personne que je fréquentais, et je lui avais dit, et lui aussi il est très supportif, enfin très vas-y, tu peux le faire. Il m'a dit non, vas-y, franchement laisse, vas-y, continue, démissionne pas, bon, ça va aller, tout ça, tu vois. À ce moment là personne ne savait encore que j'étais en train de bref. Donc pareil, mes parents m'ont dit vas-y, tu vas y aller, machin, mais je pense que quand elle a entendu antidépresseur, elle a eu peur, elle a dit non, tu arrêtes. Donc j'ai posé une semaine d'arrêt, enfin le médecin m'a donné une semaine d'arrêt, j'ai posé ma semaine d'arrêt qui a été suivie tout de suite de ma lettre de démission et puis je suis partie. Maintenant, je comprends que parfois on vit des situations où machin, et c'est là où je reviens à ce que je disais pour la période de décès, enfin à ce que je disais avant. Parfois tu vis une situation, si tu sais que voilà, j'ai des charges quand même lourdes que je dois payer, machin, moi j'avais des charges, mais j'avais déjà calculé, je savais que bon, voilà, avec mon solde de tout compte, je pouvais X, je pouvais Y. Et puis j'avais quand même un peu de. Qu'on se le dit, ça va. Non, j'avais un peu d'argent de côté. Donc, si tu te dis, oui, franchement, j'ai envie de partir, j'en peux plus et tout. Tu fais un calcul en fait. Tu te dis, ok, voilà mes charges. Si je paye juste mes charges, qu'est-ce qui me reste? Ok, il me reste ça. Si je fais des économies pendant combien de temps je peux m'en sortir, ainsi de suite. Et tu vois si tu peux serrer les dents et tout et tout et tout. Tu vois, si tu peux serrer les dents. Moi, je pense que je n'en pouvais juste plus. Je pense qu'il fallait que enfin, c'est mon avis aujourd'hui, avec du recul. J'aurais dû peut-être prendre juste 2 semaines d'arrêt, repartir et justement préparer vraiment mon départ de cette entreprise. Mais je pense qu'en fait, j'avais jamais vécu ça. J'avais tellement jamais été confrontée à ce genre de truc que je me suis dit non, il faut que je me barre le plus tôt possible, c'est tout. Et en ce moment, t'as l'impression souvent de pas forcément avoir de soutien. Voyez, mes parents sont de l'autre côté. J'ai ma petite sœur, finalement. Mes amis, je les aime d'amour et tout, mais je suis une personne assez introvertie, donc forcément, je ne parle pas, je ne dis pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi tout le temps. C'est compliqué. Donc, j'aime vous dire à vous, et à cette période-là, vous n'étiez pas encore là. Et du coup, c'était un peu chaud parce que tu réfléchis, tu stresses financièrement, tu stresses parce qu'il y avait d'autres trucs qui s'accumulaient dessus et ainsi de suite. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en vacances, les gars. Oui, je me suis... Enfin, on s'est pris une semaine, c'était une semaine de vacances, non? Oui, avec mes sœurs et mes frères. franchement, c'était des vacances en famille. Quand on est revenu, je ne suis pas rentrée directement à la maison. Ils sont rentrés. Moi, je suis allée voir mon copain à ce moment-là. Et ensuite, je suis restée avec une amie pendant 2-3 jours. Enfin, justement, mon amie, là, parce qu'elle déménageait et tout. Donc, je l'ai aidée à déménager pendant 2-3 jours avant de rentrer chez moi. Ah oui, je me suis permise. Vraiment, pour le coup, j'en avais besoin. J'en avais besoin et surtout, ça m'a permis progressivement d'arrêter les médicaments. Parce que justement, j'allais mieux. Déjà, quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'en avais plus vraiment besoin. Mais j'ai continué quand même un peu pour être sûre, pour être stabilisée. J'avais ma tête toujours qui faisait mal, mais ça me mettait tellement KO. Je dormais tellement bien, je me levais, j'étais bien. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'était très bien. Ça veut dire qu'en fait, quand vous quittez une situation aussi toxique, si vous avez la possibilité, franchement, c'est si vous avez la possibilité, si vous êtes préparé. Moi, j'avais des économies et tout, mais c'est vrai que j'aurais pu encore gratter 3 mois pour essayer de voir. Mais offrez-vous du temps. Ça veut dire que moi, il fallait que je pense que j'aurais dû me poser, me débrouiller pour avoir 2 jours d'arrêt. Et derrière, pouvoir. Pendant justement, pas 2 jours, 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, prendre justement une semaine de vacances, aller me poser, être bien et tranquillement revenir au taf, être bien, tu vois. Genre aller prendre l'énergie et quand je revenais, entre l'énergie que j'occupais mes médocs, j'allais être 3 mois dans ma bulle. Genre dès que ça finit, je me dis allez, ciao, bon dimanche et je me casse. Ouais. Mais j'ai pas réfléchi comme ça et c'est bien aussi. Franchement, c'est bien aussi parce que je sais pas ce qui serait passé si j'étais repartie. Je sais pas comment ce serait passé en face, comment je l'aurais vécu, est-ce qu'il n'y aurait pas eu pire. Enfin, c'est mieux que ça soit aussi passé comme ça. Donc ce que moi je vous conseille, quand vous avez vécu ce genre de truc, que ce soit du harcèlement sexuel, harcèlement moral, tout ce qui peut ne pas être bien, c'est vraiment vous ressourcer, vous offrir 2-3 jours, vraiment 2-3 jours de paix, soit en vacances, soit loin, soit machin, parce que pour le coup je voulais vous raconter l'histoire de mon ami, mais ça m'est venu aussi, j'ai une très bonne amie à moi qui va écouter, j'espère que... Enfin, elle, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais elle a fait un burn-out, comme beaucoup de gens finalement. Et j'ai aimé le fait que elle ait pris du temps pour elle, qu'elle ait pris des résolutions. C'est d'abord quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve hyper active, hyper machin. Mais c'est vrai que justement, des fois, pour avoir vécu un certain nombre de choses, on va dire, j'ai des fois tendance à m'inquiéter un peu pour elle. Parce que je sais, je me dis justement, voilà, tu es hyper active, il y a un moment, il faut que tu te reposes. Sauf que des fois, j'ai l'impression qu'elle ne se repose pas assez. Mais bon, c'est son confort, c'est son caractère, et voilà. Donc, du coup, moi, j'ai aimé le fait que quand elle a su qu'elle est en train de vivre un burn-out, enfin, d'aller vers le burn-out, elle a pris une pause, elle a voyagé, enfin, elle a fait son truc, tu vois. Ça te permet de te ressourcer énormément. Ça te permet de te ressourcer. Et du coup, ça m'amène à vous parler de mon amie. Qui elle aussi se retrouvait dans la situation où tu es là, dans une entreprise, où clairement on te montre, on te dit qu'on ne veut plus de toi. Mais bizarrement, elle c'était particulier, bizarrement quand elle trouve un autre travail, on commence à te freiner, à te mettre des bâtons dans les roues. Franchement, il y a des entreprises très toxiques. Certains ont la chance de se retrouver dans des entreprises où tout est beau, tout est machin et tout. Où les problèmes, c'est des problèmes de travail en fait. C'est pas quelqu'un qui te prend en grippe comme ça pour rien. Mais il y a des entreprises vraiment malsaines. Et honnêtement, si vous avez la possibilité, partez. Partez parce que ça ne mérite pas votre maladie. Voilà, ça ne mérite pas. Je disais souvent que je pense que le psy n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ni par mon assurance, ni par rien du tout. Donc je ne vais pas me retrouver en train de devoir avoir un psy, le payer de ma poche. Après, vous m'énervez là-bas et je trouve même que vous me payez pas assez. Tu vois. Donc vraiment, cassez-vous. Partez. Mais après, si vous pouvez voir un psy, honnêtement, ça peut toujours être positif. Moi, perso, je pense qu'un jour je me coucherai bien dans le canapé d'un psy, puis on va discuter. Je sais pas si c'est moi qui vais lui poser les questions ou si c'est lui, mais quelque chose va se passer en tout cas. Donc, après ce travail-là, comme je disais, j'ai pris des vacances et tout. Et ensuite, en revenant de vacances, j'ai recommencé à postuler. Et puis, il est tombé plein de galères qui ont fait qu'il fallait que c'était une nécessité que je parte, que je rentre chez mes parents tranquille, parce que là sinon j'allais péter un plomb. Et donc c'est là où je disais tout à l'heure, ma deuxième période de chômage entre guillemets, je l'ai moins mal vécu. Et puis surtout j'étais dans des petits projets, je faisais machin et tout. Et voilà, on enchaîne du coup sur le nouveau travail que j'ai qui se passe bien, mais comme je disais, j'aurais bien aimé après ma période d'essai, me poser avec ces gens-là. Je ne l'ai pas démissionné, hein. J'aime bien, je trouve cool. Parce que du coup, tu apprécies plus quand les gens sont sains autour de toi, quand tu as connu le côté malsain. Là, tu apprécies et je trouve que voilà, les gens sont sains. Bien sûr, il y a des gens qui sont énervants, qui font des choses bizarres, mais la plupart des gens sont hyper sains. Et j'ai ce poste-là, ce privilège entre guillemets du poste que j'ai, parce que je vous ai dit que la fonction que j'ai, le poste que j'ai, normalement c'est directement PDG et tout, ouais. Et donc là, pour une fois, j'ai vraiment ce privilège-là, qu'on me laisse dans mon coin, qu'on me laisse tranquille. Je suis pas associée à plein de, enfin, je suis associée à plein de choses sans être associée à plein de choses, voilà, parce que mon métier fait que j'ai un œil un peu partout, mais j'ai pas besoin de les voir et tout. Et je suis pas très sociable, donc c'est cool. C'est cool de rester dans son coin, c'est sympa. Je suis contente de ce travail. Comme j'ai dit, tout n'est pas toujours tout rose. Il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément. Et c'est là où l'expérience d'avant montre que je dois parler. C'est-à-dire quand le moment venu, quand arrivera le moment, il faudra que je parle, il faudra que je me prépare à dire voilà, il y a ça que j'apprécie, il y a ça que j'apprécie moi. Comment on fait ? Ah les gars, comment on fait ? Nous tous, on doit être bien. Je suis désolée, ça ne doit pas être d'un seul côté. Tout le monde doit être bien, tout le monde doit être heureux, tout le monde doit être content. Et puis voilà. Donc, alors, on a parlé du choix de travail, de comment gérer le chômage, de la toxicité au travail, de ce qu'on peut faire après. Enfin, franchement, faire un truc qui te fait plaisir, qui te recharge les batteries. Et voilà, j'avais envie de parler pour ceux qui sont dans le cadre, enfin, ceux qui cotisent à la caisse d'épargne, enfin bref, CNPS et machin, ça dépend de là où vous êtes. Ceux qui cotisent en tout cas pour la retraite. Il faut absolument essayer ça, je ne savais pas à un moment. Mais bon, la chose en fait que j'ai commencé à apprendre, il faut essayer de se renseigner combien d'années il faut cotiser. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est obligé d'être dans la même entreprise pendant un certain nombre de temps? Est-ce que si, est-ce que ça? Il faut vraiment avoir toutes les informations avant de prendre des décisions. Il faut être sûr aussi que ton entreprise cotise pour toi. Parce que malheureusement, il y a des entreprises qui ne cotisent pas. Si ils ne cotisent pas, essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que tu peux les pousser pour qu'ils cotisent ou est-ce que toi-même tu peux enlever, parce que c'est possible dans certains pays. Je ne sais pas si c'est partout ainsi, mais je sais que dans le pays où je suis, c'est possible de cotiser soi-même. Donc tu cotises ton épargne retraite toi-même. Tous les jours, on enlève tranquille dans ton compte. Tous les mois, on enlève tranquillement dans ton compte directement. Tu cotises ton épargne retraite et ça te permet de gagner des années derrière. Parce que si tu peux t'autant te travailler 5 ans dans une entreprise où finalement on ne cotisait pas. Et après, tu continues et tu ne te rends pas compte que bah, tu as 5 ans en moins. Alors que pour pouvoir toucher la retraite, par exemple, chez nous, c'est 15 ans. Tu vois, je me suis renseignée si on peut... Enfin, ce n'est pas forcément dans la même entreprise, tu peux changer, il n'y a pas de souci. Mais je me suis renseignée si de toi-même, tu peux payer. Ça veut dire que si tu décides d'arrêter de travailler et de faire des petits business, des petits business, des petits trucs, est-ce que toi-même, tu peux payer pour la retraite? Je suis sur le coup. Normalement, j'ai l'impression que la réponse est positive, mais je suis sur le coup. Oui, je sais, on se demande tous pourquoi je pose cette question, mais c'est que ça m'intéresse. Je voulais aussi dire que très souvent, il y a des personnes qui sont très... quand tu fais le travail, quand tu aimes ton travail, ça devient plus... Ce n'est plus un travail, c'est une passion, blablabla, et tout, et tout. Et que ça peut piquer. Moi, personnellement, avant, quand je regardais, je tombais sur LinkedIn, je tombais sur quelqu'un qui disait ça me piquait, parce que je me disais, non, mais moi, mon travail, c'est juste un travail. Pourquoi j'ai pas aussi le droit? Mais quand je réfléchis, je me rends compte que, par exemple, si l'écriture... Enfin, on voit juste ça, le podcast, je pars régulière tout le temps, tout le temps. Ça devenait une obligation où je suis obligée de poster, par exemple, un épisode par jour. J'arrêterais d'apprécier autant. Là, j'apprécie de discuter avec vous, de raconter toute ma vie comme ça pendant près d'une heure, pendant une heure et plus, voire même un peu moins, parfois 30 minutes. Bon, bref, vous avez compris. Mais je pense que ça devenait une obligation, j'allais moins apprécier. Donc, j'ai compris que, bon, certaines personnes peuvent dire que c'est une passion. Moi, perso, même si je fais ma passion, je commence à travailler, à gagner de l'argent avec ma passion, le podcast, l'écriture, je sais pas trop quoi. Ça va être moins intéressant, je pense, parce qu'il y aura l'obligation derrière de produire et ce qui me plaît, c'est de ne pas avoir cette obligation-là, justement. Donc, bon, il y a ça. Il y a aussi ceux qui vous disent que, ouais, une fois qu'on a commencé à travailler, machin, on va charbonner jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on meure, en fait, finalement. Pareil, je ne suis pas forcément d'accord. Je prie Dieu, vraiment, si les choses se passent comme j'ai envie que ça se passe, je prie Dieu pour qu'à 50 ans, j'arrête. Tu vois, 50 ans, je prenne ma retraite anticipée. Mon plan, c'est vraiment, pour le coup, vous allez trouver ça bête, mais c'est de m'occuper de mon mari. Voilà, il sera peut-être encore en train de travailler. Mon plan, c'est vraiment de m'occuper de mon mari, d'avoir des projets peut-être. Vraiment, d'avoir mis des projets, des trucs en place qui font que l'argent tourne. j'ai pas forcément besoin d'être là pour que l'argent tourne et tout. Mais ouais, d'être concentrée sur mon mari, sur mes enfants. Mais bon, j'espère que mes enfants se sont déjà cassés. J'espère que j'en aurai et qu'ils se sont barrés. Et que je pourrai franchement m'occuper vraiment avec mon mari. Lui dire des fois, vas-y, pose ton vendredi, on va faire un long week-end, on va aller franchement profiter vraiment de la vie avec cet homme-là. Parce que je me rends compte que quand je réfléchis, je vais certainement le rencontrer, ou bien je l'ai déjà rencontré, mais je vais certainement l'épouser dans une phase où on sera hyper actif professionnellement. On n'aura pas forcément toujours le temps de prendre du temps pour nous. Et moi, franchement, 50 ans, il faut que je m'arrête. C'est pour ça que je me renseignais pour la retraite et tout. Parce que je me suis dit, bon, comment ça se passe et tout. Donc, je sais, c'est pour ça que quand les gens me disent oui, on travaille à la mort et tout, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il y a un moment où il faut se reposer, prendre soin de soi, des gens qu'on aime et s'occuper de soi. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler très dur avant, tu vois, pour pouvoir, s'arrêter un moment et se dire ok, là je bois des verres avec mes copines, on voyage, je m'occupe de mon mari, franchement on fait notre petite vie. Ouais. Bon, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé de tout. Je vous ai même dit ce que je comptais faire pendant ma retraite. Je sais pas, j'aimerais vous dire qu'est-ce que vous en pensez, mais déjà j'ai pas accès à mon compte Insta en ce moment. Enfin, ce compte Insta en ce moment, je sais pas pourquoi j'arrive pas. J'ai pas envie d'en créer un nouveau, ça va faire trop le fouillis. Et puis voilà, essayez ici, voir si vous pouvez me poser des questions ou quoi. Et tout. Bon, je vous laisse. De toute façon, je vous aime, vous savez. J'ai beaucoup parlé. Hey.